nimm guter Klezmer dein Fiedel in Hand und spiel mir das Liedel von goldenem Land. Am Moll fleckt mein Mamä mit Herz und Gefühl. Das Lied du mir singen, euch spiel es mir Spiel. Am Moll fleckt mein Mamä mit Herz und Gefühl. Das Lied du mir singen, euch spiel es mir Spiel.
L'étoffe de la langue, Stoff und Sprach, The Fabric of Language, une émission conçue et réalisée par Isabelle Rosenbaumas. Cette émission est une enquête auprès de ceux qui tissent le matériau précieux du yiddish. Autant dire que nous allons suivre des fils. La langue yiddish a été pendant ces dernières décennies une planète qui se réveille plus tôt en été. Celle des séminaires, programmes d'enseignement, conférences spécialisées, stages de klezmer, voyages à thème. Pourtant, des milliers d'utilisateurs, pas toujours rigoureux, du mameloshen et du tateloshen, ont dans l'oreille une langue colorée, entendue à la maison et dans les chansons. Je tente ici de jeter un pont entre ceux qui se souviennent et n'ont parfois gardé du yiddish que le sentiment douloureux de la perte et ceux qui maintiennent et élaborent la langue. Une fois par mois, en anglais ou en français, parfois en yiddish, nous présenterons ici ceux qui en connaissent les arcanes et la transmettent à de nouvelles générations. Qui sont les orfèvres qui forgent nos dictionnaires et notre lexique, élaborent nos manuels d'apprentissage? D'où sortent les poètes et les traducteurs d'aujourd'hui, les rédacteurs de nos journaux et les organisateurs de nos séminaires? Et d'où nous viennent les chefs de chœur, les acteurs de la scène yiddish, qui montent ou adaptent le répertoire, les geeks qui créent les applications pour étudier le yiddish en ligne et transposent nos dictionnaires dans l'univers digital? Je vous invite à explorer la ruche de notre planète B613, où la langue de nos parents et grands-parents se transforme en friandises d'or.
Und hör ich das Liedel, dann schwebt vor mir bald mein teure Mame, ihr liebliche Gestalt, ihr harziger Schmeichel, ihr zärtlicher Blick. Sie wecken mir auf mein vergangenem Glück, ihr harziger Schmeichel.
Batia Baume, bonjour, je te remercie de me recevoir dans ta maison. Je suis assez touchée de te retrouver alors que tu vas recevoir bientôt. Alors, je ne sais pas si c'est pour la première fois ou pour la deuxième fois, le prix de la traduction de la Société des gens de lettres, décerné pour toute ton œuvre
Oui.
et pour la première fois pour l'œuvre d'un traducteur qui n'a traduit que du yiddish. Donc, c'est extrêmement touchant d'être chez toi à cette occasion.
Je te remercie. Et alors, pour la première fois, tu dis, j'ai reçu ce prix il y a déjà 20 ans.
Voilà.
Il s'appelait Prix de la Société des gens de lettres, Alperine Kaminski, Découverte.
Voilà, il
Et
t'était
maintenant,
décerné pour Yosik.
pour la parution du livre Yossi, qui sont les mémoires de Joseph Bouloff.
Voilà, et il t'a été décerné à Arles pendant les assises de la traduction.
Oui. Et
J'étais
maintenant,
présente.
20 ans après, consécration pour toute mon œuvre, alors que toute mon œuvre n'est pas parue. Que la majeure et la meilleure partie se trouve encore dans mon ordinateur. Tu dis, pour la première fois, décerné à une langue juive. Il se trouve que,
À la langue yiddish.
oui, à la langue yiddish. Il se trouve que quand j'ai reçu ce prix il y a 20 ans, le prix Découverte, Alex Dzerzhinski m'a félicité et il m'a dit une parole qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, tu sais, c'est la première fois qu'il décerne ce prix à une langue juive. Voilà.
Écoute, voilà, j'ai devant toi, ton œuvre est pas encore parue, effectivement, mais j'ai devant moi un certain nombre de tes traductions, La nuit sur le vieux marché de Yitzhak
les bouches Pérez. J'ai ici la Die Kliatche de Mendelert Morersori.
La Riddell en français.
Riddell, traduit par la Riddell. Bien entendu, le grand poème de Yitzhak Katznelson d'Oslid von Eusgeharger Jiddischen Volk, le chant du peuple juif assassiné. Le Der Griner Aquarium d'Abraham Sutzkever, Aquarium vert. Et les mémoires, le manteau de prince de Yossel Birstein. La plupart de tes traductions sont éditées dans des éditions bilingues par la bibliothèque MEDEM, maintenant la Maison de la Culture Yiddish, et plus récemment à l'Antilope, les mémoires d'un jeune juif de Vilna.
Son journal du ghetto de Vilna.
Voilà, entre les murs du ghetto de Yitzhak Rudashevski. Donc, je sais que tu as beaucoup de choses dans ton ordinateur qui sont en travail, qui sont en chantier, et qu'elles seront publiées, certaines incessamment, d'autres plus tard.
Il faut espérer.
Et ce qui m'intéresserait aujourd'hui avec toi, c'est de parler de ton rapport à la langue, bien sûr. J'avais entendu, il y a très longtemps, je t'avais entendu dire que, pour toi, longtemps, le yiddish était une langue interdite. C'était une langue muette.
C'est-à-dire, moi, je suis née pendant la guerre. Assez rapidement. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les événements à la rafle du Veldiv. Bon, mon père était fusillé quand j'étais à peine née. Il était à Pithiviers, il était fusillé comme otage. Mes deux parents étaient dans la résistance juive, le groupe Solidarité. Ma mère a appris qu'il allait y avoir la rafle. Donc elle m'a prise et elle s'est cachée. Et elle a réussi à cacher avec elle une cousine qui est la seule survivante de sa famille. Du coup. Donc une jeune fille de 15-16 ans. Elles ont passé la ligne de démarcation et on était ensuite à Lyon, cachées dans un grenier. Ma mère parlait yiddish, elle est arrivée très peu de temps avant la guerre, fin 38, 39 déjà. Et cette jeune cousine, Anna, parlait français et moi j'étais là avec elles deux, cachées dans le grenier, à la Croix-Rousse, au-dessus de la ville.
La Croix-Rousse, c'est...
La Croix-Rousse, à Lyon.
À Lyon, ça.
Oui, oui. Et ma mère me parlait yiddish, Anna me parlait français. Entre elles deux, elles se parlaient soit yiddish, soit français.
Ta famille est de Lyon ?
Non, pas du tout.
Non.
Elles ont passé la ligne, oui. Alors, on pourrait aussi faire tout ce récit du passage de la ligne.
Donc, au moment où ta famille passe la ligne de démarcation, tu es avec ta mère ?
Je suis avec seulement ma mère et cette cousine.
Voilà.
Il n'y a plus personne d'autre. Ils ont été raflés. Non, mon père a été fusillé et Anna, sa famille, a été raflée à la rafle du Veldiv.
Que faisaient tes parents avant d'être jeunes résistants ?
Jeunes résistants, mais non, ils venaient d'arriver de Pologne, l'un et l'autre, mon père de Chelm et ma mère de Pchitik. Pchitik est connu parce qu'il y a eu un pogrom en 1936 qui a fait beaucoup de bruit, parce que une famille juive a été massacrée et un Polonais est mort. Et il y a eu un procès retentissant parce que on a accusé 8 juifs d'avoir tué un Polonais. Et aucun Polonais n'a été accusé de quoi que ce soit. Parce qu'il y avait au Shtetl, à Pchitik, un comité d'autodéfense, dont ma mère faisait partie, ses cousins aussi. Ma mère était en prison à Radom à l'époque, parce qu'elle était déjà une militante communiste en Pologne. Et ce procès à Pchitik a fait assez de bruit. C'est à la suite de ça que Gebertik a écrit Esbrennt en 1937. Esbrennt, notre Shtetl brennt, et vous restez là, les bras croisés, à ne rien faire. Donc un appel déjà à l'autodéfense. Voilà dans quelle atmosphère, quel climat était ma mère déjà, disons, et tout son milieu. Et donc, mon père et ma mère se sont rencontrés à Paris dans les milieux juifs communistes. Et très vite, ils sont. Bon, mon père s'est engagé volontaire, comme presque tout le monde, hein, au début à la déclaration de guerre. Et.
Tu étais trop petite pour avoir des souvenirs de yiddish comme langue vernaculaire.
Non, justement, c'est ce que je voulais venir là-dessus. Bon, alors, moi, je suis née fin 41. Mon père était déjà en prison. Voilà, ma mère passe la ligne de démarcation. Juste après la rafle, elle s'est cachée avec moi et cette jeune cousine. Elles ont passé la ligne, disons, en août ou septembre 42. On arrive à Lyon, et c'est là, à Lyon, où je vivais dans ce grenier avec ma mère qui parlait yiddish et cette jeune cousine qui parlait yiddish et français. Donc j'ai baigné, et enfant, bébé, quoi. Tu vois, la première langue que j'ai entendue. C'était ce mélange de yiddish et de français. Donc pour moi, c'était une seule langue. Et les premiers mots de yiddish que j'ai prononcés dans la rue, Revelanay elle est maman, parce que voilà, Revelanay elle est, je veux manger un petit œuf, parce qu'on n'avait rien à manger et que tout était rationné. Nous, comme on avait des faux papiers, en plus, c'était compliqué d'avoir les tickets de rationnement, enfin les cartes de rationnement, etc.
Tu t'entends dire cette
Je
phrase.
m'entends dire ça. Oui. Et je sais que le premier mot que j'ai prononcé, par exemple, c'est Adore Anna. Je t'adore Anna. Anna, c'était ma jeune cousine. Et oui, je m'entends dire. Et ma mère m'a frappée sur la bouche. Et très peu de temps après, l'organisation, ma mère était à La Moye. L'organisation de résistance, main-d'œuvre immigrée, dans laquelle il y avait des Juifs, des Espagnols, des Grecs, parce que je me souviens très bien que même dans le grenier où nous étions, il y avait des jeunes filles grecques qui venaient, qui étaient amies, Rosa, Anna, voilà, avec ma jeune cousine qui était elle aussi dans ce milieu-là. Et donc l'organisation m'a placée à la campagne chez des paysans. Et ma mère ne savait plus où j'étais. Ils ont coupé les liens pour qu'on puisse pas remonter, voilà,
La séparation
jusqu'à
a
moi.
duré jusqu'en 44.
Oui, enfin oui, je sais pas exactement. Mais donc j'ai compris que moi, de là, je me suis tue. Il se trouve que Anna est venue me voir. Parce qu'on avait demandé d'envoyer mon lit. Donc elle est allée à la gare, elle a vu mon lit, elle a vu l'adresse, elle a pris un vélo, elle est allée là-bas. Et des années plus tard, elle m'a dit, tu n'as même pas levé les yeux sur moi. C'est-à-dire que j'étais déjà enfermée. Je sais, parce que j'en ai souvenir. J'ai compris que le monde, parce que j'ai ce souvenir d'être à la Croix-Rousse, je ne suis pas retournée à cet endroit. Mais je me vois sous un grand rocher. Je pense qu'il y a un grand rocher en haut de la Croix-Rousse et que je vois la ville à mes pieds et
En
je ne
effet,
savais pas parler. Tu connais cet endroit?
je crois voir. Oui.
Donc je me revois là, je vois la ville à mes pieds et je crie. Je pense que je n'ai pas de parole pour exprimer ce que je ressens. Mais ce cri, je sais ce qu'il veut dire. Il veut dire la ville est là, vivante, et moi je suis en dehors. Et enfermée, probablement déjà enfermée dans le fait que je n'ai pas de parole, je n'ai pas de parole, je n'ai pas de langue.
Wer nur hat du nach
La vie reprend après la guerre. Elle reprend avec le yiddish. Elle reprend.
Alors après la guerre, je suis restée encore jusqu'en 48. Bon, ma mère m'a retrouvée après la guerre, là où j'étais cachée. Elle m'a amenée à Paris, mais elle a dû me mettre dans une maison d'enfants, les maisons d'enfants de la CCE, de l'Union des Juifs pour la Résistance, le JRE, qui était la suite du mouvement Solidarité, qui était ce mouvement de résistance juive pendant la guerre. Il y avait des foyers d'enfants, et moi j'étais parmi les tout-petits, au Rincy.
Au Rincy ?
Oui. Il y avait Rincy-Coteau et Rincy-Plateau. J'étais au Rincy-Plateau avec les tout-petits. Ça a été un moment merveilleux pour moi. C'est-à-dire que là, j'ai enfin senti que j'étais dans un nid. Que il y avait pas que le monde hostile était autour de nous, mais nous, ah, j'ai un souvenir vraiment comme si on était enfants et adultes à égalité, parce que les moyens, c'est pas des moyens, la pédagogie mise en œuvre avec nous était complètement moderne par rapport à ce qu'il y avait alentour et que j'ai trouvé après en sortant de la maison d'enfants qui était hiérarchique.
Oui, alors on exposé à une pédagogie extrêmement avancée.
Extrêmement est-ce avancée que, et surtout on avait attends, voilà. On avait des relations entre enfants et adultes, moniteurs, directeurs, complètes. À égalité. Et moi, j'avais ce sentiment qu'on était tous. L'image que j'avais, on est en rond sous un arbre, sur une jeune pelouse, et on se parle. Et on se parlait justement avec les langues qu'on avait. Donc, et on était à égalité, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'hostilité. Jusque-là, j'avais été muette parce que je sentais que parler était un danger. Là, c'est pas que je parlais pas beaucoup. Après, pendant des années, je suis restée assez taiseuse, disons. Mais j'avais ce sentiment. Et alors, on nous apprenait le yiddish aussi. J'ai appris, on avait ce livre de yiddish édité en 47 par Louba.
La fameuse Louba.
La fameuse
qui revient dans tous les témoignages. Par le Louba.
Voilà, donc. Parce qu'elle avait sûrement, elle, un amour du yiddish, voilà, qu'elle partageait avec nous. Donc, dans les maisons d'enfants et dans les patronages ensuite. Je suis restée jusqu'en 48 à la maison d'enfants. Est-ce que j'ai dit, oui, que j'avais ce sentiment, voilà, qu'on était ensemble en train de reconstruire un monde, enfants et adultes à égalité. Parce que parmi nos moniteurs, certains revenaient des camps, moniteurs ou gens de la technique. Il y avait même une jeune fille qui est partie aux États-Unis après, elle ne parlait que yiddish.
Tu te souviens de son nom ?
Bluma, je crois, mais bon, je ne sais pas plus. Bluma.
Et donc,
Bluma.
Donc, tu es encore toute petite, en 48, quand tu sors, tu vas être scolarisée.
Voilà, je suis scolarisée, et là, c'est assez terrible pour moi. Alors là, voilà, j'ai trouvé l'école avec tout son climat. Alors là, on ne parlait plus aux enseignants. Tiens, il m'est arrivé quelque chose hier, au mémorial.
Oui.
Il y avait une conférence de Geneviève Brisa qui a écrit un livre sur sa voisine. Il se trouve que sa voisine était Jenny Plotsky, qui a été mon institutrice à ce moment-là. Et je lui ai dit d'ailleurs, et je vais la revoir là maintenant, elle m'a donné ses coordonnées, parce que j'ai vu qu'elle citait mon nom dans son livre. Elle citait, elle disait que parmi ses élèves, elle citait quelques noms. Betty Baum, c'était moi, Betty Baum. Et donc, elle, c'était ben voilà, une jeune fille aussi, à l'époque, qui promouvait une pédagogie moderne de celle que j'avais reçue. Et c'était vraiment un bienfait bénéfique, et même elle m'a sauvé la vie, quoi, de, parce que je, jusque-là, j'étais enfermée chez moi à me taper la tête contre les murs, réellement pendant des heures. Je me balançais et me tapais la tête contre les murs, comme on voit faire aux enfants autistes. Et parce que j'habitais avec ma mère dans un lieu au bord de la Seine, derrière, entre Maubert et la Seine, qui était à l'époque un quartier terrible, terrible. Des taudis, les rats, les clochards. Et la maison où j'habitais, parfois les gens, il n'y avait pas l'eau dans les appartements, il y avait l'eau seulement.
On s'imagine pas ce quartier.
Les rats dans les escaliers. Et surtout, quand je rentrais, ma mère travaillait dans les ateliers, et je rentrais tard de l'école, il faisait nuit déjà, il y avait les rats dans les escaliers, il faisait sombre, il n'y avait pas de lumière, et je sentais suinter des murs sous la peinture marron caca, la haine, et tous les jours sur ma porte, quelqu'un avait écrit « mort aux juifs » à la craie, ou gravé dans le mur, dans le plâtre, « mort aux juifs ». Et que je devais effacer pour que ma mère ne le voie pas. Et je sentais réellement la haine et l'antisémitisme suinter des murs.
Ça existait dans le Paris d'après-guerre.
48. Et sous la peinture marron caca, sur chaque porte, sur le montant de chaque porte, il y avait une mezouza. Et quand j'ai demandé à ma mère qu'est-ce que c'était, j'en ai défait une pour voir, je lui ai montré, elle m'a expliqué que voilà ce qu'était la mezouza. Et donc chaque fois que je montais cet escalier, je sentais cette présence disparue des gens qui avaient habité là avant et qui étaient recouverts par cette
donc
haine.
Quelqu'un dans cet immeuble continuait de poursuivre les
voilà.
Juifs de sa haine.
Voilà.
Il a fallu que vous habitiez là.
Oui. Et on était les seuls juifs. Heureusement, il y avait des Espagnols dans l'immeuble avec qui on pouvait parler, qui venaient d'ailleurs après, quand ma mère a fait un atelier à la maison, ils venaient travailler.
Que parlait-on à la maison à ce moment-là ?
Alors, on parlait yiddish. Alors, ma mère, toujours militante, faisait ses grands discours en yiddish. Elle a d'ailleurs fait le discours en yiddish du premier congrès du MRAP. Et oui, alors elle m'entraînait soit dans les ateliers où on parlait yiddish. Ma mère s'appelait Chaye. Bon, Baum, c'était le nom de mon père, arbre. Mais ma mère s'appelait Kirschenzweig, de son nom de jeune fille.
On est tous dans la catégorie des arbres, des arbustes. Des
Kirschenzweig, branches, voilà, branche de cerisier. Et sa famille, elle, s'appelait Rosenholz, bois de rose. Oui.
Et donc, à la maison...
À la maison, on parlait yiddish.
Et
dans le milieu, les ateliers, tous les ateliers où elle allait travailler, on parlait yiddish. Et moi, j'ai un souvenir, j'ai un souvenir de cette après-guerre plein de cette vitalité yiddish. Parce que dans les ateliers, on chantait, on se racontait des blagues. On discutait politique, évidemment, parce que ça se bagarrait fort entre les communistes qui voulaient plus être communistes, ceux qui voulaient le rester, les sionistes.
Il me semble que 48 marque une date importante pour les juifs, même pour les communistes.
Oui, justement. Alors, il y avait les sionistes. Non, et puis il y a eu les histoires des procès de Moscou.
Bien
enfin,
ça,
voilà.
C'est à partir de 1948.
Oui. Donc, il y avait... Et même... Non. Pas du tout. J'étais dans les ateliers, j'entendais tout ça. Justement, toutes ces discussions politiques et philosophiques, parce qu'on se disputait aussi sur le harem de Spinoza.
Voilà.
Donc, j'ai eu les oreilles pleines de tout
école.
Ça, voilà, ça c'est
là, maîtres.
Alors
ce
mes maîtres, j'en sais rien, c'est pas des maîtres, c'est que j'ai eu la tête pleine de tout ça. C'est l'atelier, comme Grimbert l'a ensuite décrit dans sa pièce, avec ceux qui revenaient des camps, ceux qui avaient été cachés pendant la guerre, tout ça était là. Et même, les gens qui revenaient... Les gens disent qu'ils ne parlaient pas, mais moi j'ai entendu parler tout le temps. Ils parlaient, ils racontaient, en yiddish en tout cas. Je pense qu'ils ne pouvaient pas raconter au-delà de cela, en pensant qu'au-delà on ne pouvait pas entendre. Mais moi j'ai entendu et on me racontait à moi aussi tout ça. Et puis les grands, il y avait les bals et les bals de société, les grandes réunions culturelles. Voilà, il y avait des grandes réunions à la mutualité. Il y avait une vie yiddish foisonnante après la guerre.
Was schläft dir, ihr Schläfer, steht auf, was schläft dir, ihr Schläfer, so lang? Geh nur akut zum Himmel herauf, wie schön ist die Sonne noch hier. Genug schön zu halten, die Loden vermacht. Was schläft dir, ich schläfe in der finsterer Nacht. Was schläft dir, ich schläfe, ich Schwester und Bride. Steht auf der Wintertag. Stille und stille, ohne Gerede. Dass alle sollen sein gleich. Genug schön zu halten, die Loden vermacht. Was schläft dir, ich schläfe in der finsterer Nacht. Was schläft dir, ich schläfe, ich Schwester und Brüder. Steht auf der Wintertag. Stiller und stiller, ohne Gerede, seht das alle sollen sein gleich.
Thank you.
Tu es imprégnée de cette culture.
Alors j'étais imprégnée.
À travers le milieu de ta mère, à travers ces militants qui se chamaillent dans l'atelier, à travers les discussions philosophiques que tu entends. Évidemment, entendre parler du Rerem de Spinoza dans l'atelier.
Quand on a 8 ans.
Quand on a 8 ans. C'est quand même quelque chose. Si tu veux, je comprends mieux pourquoi mon père a conclu sa biographie par une discussion les yeux dans les yeux avec Spinoza.
Eh ben oui.
Je le comprends mieux. Mon père qui a été à l'école jusqu'à 10 ans et qui est devenu apprenti tailleur ensuite. Je le comprends mieux maintenant. Tu me donnes un éclairage de des sources de sa curiosité. Bien sûr, je sais bien que chez nous, les Juifs, la question philosophique, elle est au centre de la vie, elle est au centre du gagne-pain.
Ben, c'est-à-dire que non, les discussions ont toujours été là dans le... Ben oui, c'est cette vie communautaire très, très vivace, disons, qui fait que tout est partagé. Tout est partagé.
Je comprends mieux aussi...
Mais moi, je ne parlais pas yiddish. C'est-à-dire que tout m'est rentré dans les oreilles. Mmh. Mais c'était une langue qui n'était pour moi absolument pas structurée au début, tu vois. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qui était du français... Au début, quoi, ce qui était du français, du yiddish. C'était une seule langue pour moi, tout ça.
D'accord.
Jusqu'au moment où Luba nous a donné les cours de yiddish et les patronages, voilà.
C'est quand ça,
et ça, c'est à partir de 48, 49, 50.
D'accord, tu as une dizaine d'années, quoi. Même pas. Une toute petite.
Et puis, comme je ne maîtrisais pas la langue, au bout d'un moment, comme je réussissais bien à l'école, le français a pris le dessus et j'ai cessé d'écouter même. C'est pas que j'ai cessé d'écouter. J'entendais, mais j'ai cessé d'écouter. C'est comme si je me disais, ça c'est leur vie, c'est pas la mienne. Et moi j'ai ma vie, voilà. Je devais me développer dans la culture universelle, disons entre guillemets.
Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir à quel moment et pourquoi, pour quelle raison, le yiddish revient dans ta vie comme un centre, puisque il y a bien un moment où tu es obligé de t'en séparer pour grandir, pour vivre, tout simplement.
Je m'en suis séparée, j'étais pas vraiment séparée, ouais. Parce qu'on continue à parler yiddish à la maison, et que j'ai vu des spectacles en yiddish, voilà, j'allais voir les spectacles du théâtre yiddish de Paris. J'ai vu aussi, par exemple, j'ai un souvenir merveilleux d'avoir vu enfant le dibouk en yiddish, c'est un souvenir, c'est même pour moi le souvenir capital de mon amour du théâtre. Et je ne sais plus si c'était une troupe israélienne ou une troupe polonaise qui était venue au théâtre de la ville présenter le dibouk. Mais j'ai le souvenir de cette jeune fille qui était en noir. Elle laisse tomber son manteau noir et elle apparaît en blanc, dressée comme sur des barres. Tu sais, les barres de gymnastique, là. Elle tient les barres, elle se dresse devant un groupe d'hommes en noir et elle dit non et elle parle avec la voix de l'homme. C'était une image qui m'est restée très fort de... Peut-être aussi de la culture yiddish et de la rébellion d'une femme contre une société qui veut l'écraser. Et de ma rébellion d'enfant contre cette société autour de moi que je sentais hostile, écrasante. Enfin, il y a eu, tu vois, tout ce...
Et tu as été enlevé brutalement.
Oui, aussi. Bon, j'ai eu beaucoup de rêves. Bon, on ne peut pas parler de mes rêves.
Très vite, dans ton adolescence, dans ta jeunesse, le sentiment que cette langue va prendre sur toi.
Non, pas dans mon adolescence.
C'est plus tard.
Parce que j'étais à la Chomer HaTzair, là on a pris l'hébreu. Heureusement qu'on chantait en yiddish, on avait une chorale merveilleuse dirigée par Léa Kleinman. Kleinman ? Peut-être, oui. Mais non, mais c'était l'idée de partir en Israël, l'hébreu.
Je n'étais pas encore arrivée en France. Je ne saurais te dire.
Et non, non, et voilà. Donc, je ne suis pas partie en Israël, puisque mon groupe a éclaté. Mon groupe a éclaté en éclats de trotskistes de tous bords.
Et il y a eu le passage presque obligé par les utopies.
Oui, bien sûr.
Tu es déjà née dans celle
oui.
communiste.
Oui. Mais celle communiste, mais déjà ma mère était très critique. Elle nous disait, enfin bon, on va pas revenir sur, même pendant la guerre et même déjà avant la guerre, commencer à critiquer et à dire, nous parlions de la religion comme l'opium du peuple, mais nous avons été victimes d'un opium bien plus terrible.
Ah, elle disait ça.
Elle disait ça. Incroyable. Elle qui avait été une militante ah, communiste incroyable. Qui a passé des années de prison en Pologne.
Ah, incroyable.
Oui.
Quelle lucidité.
Oui, oui.
Comment on dit ça en yiddish?
Weissnacht.
Der Opium von Volk. Et donc, quand tu t'es mise à la traduction dans les années. Tes premières traductions datent de quand?
Alors, le yiddish m'est remonté. De voilà, puisque j'expliquais que tout m'est rentré par les oreilles, j'entendais sans savoir oui je comprenais ce que j'entendais sans savoir comment je le comprenais.
Oy nem guter klezmer dein fiddle in hand und spiel mir das liedel von goldenem land. Amol fleck mein Mame mit Herz und Gefühl, das Lied um mir singen, euch spiel es mir Spiel. Amol fleck mein Mame mit Herz und Gefühl, das Lied um mir singen, euch spiel es mir Spiel.